Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle heure de sport ensemble. La 38 ou 39e mission, déjà que le temps passe vite. Aujourd'hui, une équipe qu'on n'a pas eu trop l'habitude de retrouver ces derniers jours. Il est de retour, l'élu, après des péripéties du côté de Narbonne. Bonjour Julien.
Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Toujours un plaisir de revenir ici, évidemment.
Voilà. Remercie Erwan pour l'anecdote de Narbonne pour la semaine dernière. Voilà.
Ah oui,
voilà.
C'est juste son fief en fait.
Tout à fait.
C'est une histoire de train raté, voilà, me semble-t-il.
C'est ça.
Erwan a des yeux partout.
Il sait tout.
Il me tient au courant, je sais.
Il s'est bien moqué de vous d'ailleurs la semaine dernière. Enfin bref, ça on en parlera ailleurs. La semaine dernière, justement, avec Erwan, on a hésité à lancer notre propre entreprise de maçonnerie. Bonjour Erwan.
Oui, c'est vrai, on a envoyé quelques briques. Bonjour.
C'est ça. Voilà, un lundi soir où on a tenté de faire comme le Stade Toulousain, on a plutôt réussi à faire comme une entreprise de BTP. C'était catastrophique. Voilà.
C'était pas le meilleur jour que le rugby a connu.
Non, ça c'est sûr. C'était pas une dans les mains, comme on dit. Hein, c'est beaucoup devant et pas beaucoup dans les mains.
Des comment ça va à place des paluches, au final.
Là, on s'était beurré les doigts. Là, c'était bien beau, c'était bien drôle.
C'est un florilège d'expression, votre histoire.
C'était un florilège aussi visuel. c'était
impressionnant.
C'est-à-dire que quand, au bout d'un moment, on vous regarde et on vous dit « Tu connais l'en avant ?» Oui, mais là, tout de suite, c'est tout ce que je peux, là.
Oui, le problème, c'est qu'on ratait tellement qu'on n'osait rien dire quand on venait nous reprendre. Oui, bien sûr,
Je le connais, mais comment dire qu'une passe est pourrie sans dire qu'elle est pourrie, tu dis rien et on continue. Voilà. C'était un peu l'esprit. Et vous l'avez entendu, notre maestra est aux manettes aussi. Bonjour Coraline.
Bonjour à tous.
Comment ça va?
Fort bien. Et vous?
Oh ben, bon week-end devant un Grand Prix exaltant dimanche.
Exactement.
Voilà, bien joué Erwan. C'était un V12. non, c'était ça va. C'est voilà. Que dire de plus?
Non, mais le Grand Prix était très intéressant, en effet.
Oui, intéressant. Pas animé, mais intéressant.
Intéressant.
Animé, au début, quand même, il y a quelques...
Oui,
quelques péripéties.
Le premier tour était... Oui.
Les premiers tours, les 7 premiers virages. C'était le... Voilà. Mais stratégiquement, tout ça, non, il y avait quelque chose aussi. Mais bon, ça sera...
Sûr.
Je suis sûr qu'on va en parler dans quelques instants, puisque nous ferons un petit retour en arrière sur les performances sportives de la semaine dernière, dans les tops et les flops, à suivre un entretien olympique, en face-à-face avec Monsieur Zoubir Kefi, 4e Dan et enseignant de taekwondo depuis plus de 30 ans. Il a remporté plusieurs titres régionaux et nationaux. Il a aussi participé à la préparation de l'équipe de France pour les JO de 2000 à Sydney. Un véritable passionné qui nous parlera de son sport, qui sera bien représenté aux JO de Paris dans 59-60 jours à peu près.
60 jours tout pile.
Voilà, dans 60 jours donc. On en parlera avec lui justement. L'équipe du jour s'est posé une question. Allez-vous regarder Roland Garros? Voilà, ça a commencé depuis quelques jours maintenant. Quelques petites... passe à la trappe du côté français, on pense à Hugo Gaston, on aura justement la réaction d'Hugo Gaston dans l'émission, et donc allez-vous regarder cette année Roland-Garros avec tout ce qui s'est passé côté sportif, on en parlera dans le question de la semaine. On terminera avec le pronostic et l'analyse d'un ou des matchs ce week-end, mais on commence d'abord par l'information sportive en région avec Corinne Saint-Félix.
L'infosport avec Corinne Saint-Félix.
Un dimanche de fête dans la Ville Rose après la 6e victoire en Coupe d'Europe pour le Stade Toulousain.
Et 12 000 personnes sont venues hier accueillir les joueurs et voir la coupe au balcon de la place du Capitole après un match de taureau intense. Et insoutenable, les deux plus beaux palmarès du rugby européen, Toulouse et le Leinster, se sont livrés à un match de finale de la Champions Cup d'une puissance rare. Toulouse a finalement dominé la province irlandaise du Leinster après prolongation 31-22 samedi au Tottenham Hotspur Stadium de Londres pour décrocher sa 6e Champions Cup. Une 6e étoile ornera bientôt leur maillot rouge et noir après celle décrochée en 1996, 2003, 2005, 2010 et 2021, ce qui fait 2 de plus que sur celui du Leinster, battu pour la 3e année consécutive en finale. Toulouse n'a plus perdu de finale depuis 2008, toutes compétitions confondues. Prochain objectif, remporter le championnat de France du top 14. La finale aura lieu le 28 juin au Stade Vélodrome de Marseille.
Une Aveyronnaise sélectionnée pour la préparation de l'équipe de France de basket au JO de Paris 2024.
Leïla Lacan est née le 4 juin 2004 à Rodez dans l'Aveyron. Elle a toute jeune démarré son parcours de basketteuse au sein du Rouergue Aveyron Basket, une entente de club de l'agglomération. Joueuse professionnelle depuis deux saisons à Angers, Leïla Lacan va poursuivre sa carrière à Basketland. Elle a déjà obtenu deux médailles de bronze à l'Euro 2023 et l'Euro 2022 en U18 avec l'équipe de France.
En foot, saison terminée par un revers 5-0 à Marseille pour les ruthénoises.
Et c'était la dernière journée de D2. Les joueuses terminent 6e. Océane Saunier et ses partenaires ont pourtant bousculé les Marseillaises une grande partie de la première période avant que Mama Diop ouvre le score juste avant la mi-temps. En Ligue 2, côté garçon, les joueurs étaient en déplacement à Saint-Étienne vendredi soir avec pour objectif de disputer les barrages de Ligue 1 la semaine prochaine contre le FC Metz. Au terme d'une rencontre maîtrisée par les visiteurs 2-0, les Aveyronnais voient leur parcours finalement s'arrêter.
En National 1, en basket, les prolongations ont été fatales pour l'Union en demi-finale aller à Saint-Vallier.
Vendredi soir au complexe des Deux Rives, Saint-Vallier l'a emporté au bout des prolongations 95-88. Une belle option prise pour la finale avant le match retour prévu le 31 mai sur le terrain des Hauts-Pyrénéens. Ces derniers ont fait preuve d'agressivité au panier et de férocité en défense face à des locaux survoltés.
Hommage samedi à Raymond Poulidor à Saint-Lary-Soulan.
50 ans après sa mémorable victoire au Plat d'Adé, Poupou, le célèbre champion cycliste, a été immortalisé par une sculpture en bronze. La sculpture en taille réelle de Raymond Poulidor, créée par Bernard Potel, mesure 1m75 et pèse 300 kg. Elle représente le cycliste dans une posture dynamique, lançant son vélo à plein poumon sur la redoutable pente de 8,9% du Plat d'Adé. Cette œuvre impressionnante, installée à 2 km de l'arrivée de la station, repose sur un bloc de granit. Et pour rendre hommage à Poupou, plus de 150 cyclistes ont gravi le Plat d'Adé.
Le tournoi de Roland-Garros a débuté et deux joueurs d'Occitanie seront sur la terre battue aujourd'hui et demain.
Malgré une alerte au pied, le Toulousain Hugo Gaston s'est relancé à Lyon en quart de finale et arrive un peu plus rassuré, porte d'Auteuil. Après un début d'année délicat, il affronte aujourd'hui au premier tour l'Américain Ben Shelton. Arthur Cazot, joueur du Stade Toulousain gravement touché à une cheville mi-avril à Barcelone, va lui aussi fouler la terre battue du tournoi du Grand Chelem parisien, mais aussi rêver encore au JO. Il affrontera ce mardi au premier tour l'Argentin Echeverri.
Voilà, beaucoup de choses se sont passés en région. Côté sportif, on remercie évidemment Corinne Saint-Félix. Tout de suite, les tops et les flops.
Les tops et les flops.
Et on commence par Erwan, qui les a choisis au dernier moment, nous a-t-il dit.
Parce que j'avais beaucoup, beaucoup de choix. Alors,
oui,
pour les tops, j'en avais un peu moins. En fait, j'hésitais surtout entre Béziers et Antoine Dupont. Alors, je me suis dit, je vais tenter de négocier le petit débat sur Antoine Dupont, etc., sans forcément connaître la question.
Négocier, évidemment, voilà. 10 minutes avant le début de l'émission.
Oui, bien évidemment. Mais c'est comme ça qu'on fait les meilleures choses. Voilà. Mais comme vous vous en doutez, au vu du sommaire de l'émission, ça n'a pas été accepté. Et donc, au final, je vais vous parler moi-même d'Antoine Dupont, même s'il faut souligner la performance de Béziers qui est revenu dans les dernières minutes avec un magnifique essai à 14 contre 15 en remontant presque 80 mètres. Voilà, juste en faisant des passes à travers une séquence où il y a plus de 30 temps de jeu. Franchement, c'était absolument hallucinant. Mais voilà, donc je vais plutôt me concentrer sur Dupont, qui a fait un match sensationnel. Beaucoup de gens en ont parlé. Voilà, après la finale contre le Leinster. Donc il a joué bien évidemment les 100 minutes, et même j'ai envie de dire 113 minutes, parce qu'avec tous les arrêts de jeu en tout, on était jusqu'à 113 minutes. Voilà, et donc au final, Antoine Dupont a produit un rugby qui était lunaire, tout simplement parce qu'il a dépassé ce qu'on demande à un numéro 9, même dépassé ce qu'on demande de manière générale à un 3 quarts, en réalisant notamment 4 grattages, qui étaient quasiment tous, on pourrait dire, décisifs, puisque tous dans ces 22 mètres, quasiment, sauf un, il me semble, qui est environ aux 30 mètres, mais qui était aussi dans un moment où le Leinster avait vraiment le momentum du match. Donc c'était vraiment impressionnant. Mais il y a d'autres stats qui sont vraiment parlantes, notamment il était à presque environ, on va dire, 10 plaquages. Il était à 9 pour 11 tentés. Mais voilà, l'apport de ses grattages était tellement phénoménal qu'au final, sa performance défensive a brillé. Ensuite, voilà, c'est le troisième Toulousain à avoir parcouru le plus de mètres après Blair Kinghorn, qui était premier, et ensuite Mathis Lebel. Il a battu 6 défenseurs, ce qui est le record du match. Et c'est le joueur toulousain à avoir fait le plus de courses avec le ballon.
Et 2,50-22 aussi, il a fait.
2,50-22, effectivement.
Dont un, c'est pépite. Hein,
Ah ouais, ouais. Vraiment au millimètre près.
On a pu voir Kitchoff et Abana réagir, les deux légendes de l'Afrique du Sud, réagir de manière. On va dire instantané, spontané.
On a tous réagi comme ça. Oui.
C'est un peu le gendre parfait, il sait tout faire.
Absolument ouais. Tout, voilà.
C'est un peu agaçant.
Et pendant son temps libre, il répare des maisons, il rénove des maisons.
En plus de ça, voilà. En plus de ça, il fait de la maçonnerie comme nous. Me
si jamais vous avez une petite fuite, appelez Antoine Dupont.
Très bien, merci pour l'info. J'imagine quelqu'un qui appelle vraiment et qui voit Antoine Dupont arriver chez lui.
Ça serait rigolo. Ça serait un truc à faire pour une émission de télé. Voilà.
Ben on fait de la radio, pas de la télé. Mais gardez l'idée, peut-être que plus tard, on lui proposera, évidemment. Qu'est-ce qui vous a marqué dans le flop cette semaine?
Alors, le flop, de la même manière, j'ai eu beaucoup d'idées. Au début, je voulais parler du Bayer Leverkusen en finale de Ligue Europa, mais je me suis dit que c'était d'un côté... Enfin, on m'a dit plutôt, un petit lutin à mon oreille nommé Julien m'a soufflé que c'était peut-être un peu méchant de les mettre en flop vu la saison qu'ils faisaient.
C'est vrai.
Ce que j'entends parfaitement. Ensuite, j'ai aussi hésité à parler dans un flop un peu détourné de la retraite de Toni Kroos, en disant plutôt qu'on était triste, pas vraiment que c'était décevant, mais dire qu'on était triste qu'un joueur pareil parte. Mais au final, j'ai décidé de rester dans le domaine du match et de parler du Leinster, et notamment de mettre en avant une statistique. Le Leinster n'a plus gagné de titre majeur, c'est-à-dire soit le United Rugby Championship,
oui.
Voilà, je vais y arriver, ou la Champions Cup depuis 1100 jours, à peu près 1157 exactement, si vous voulez le chiffre. Voilà, c'est vraiment une série noire pour Leinster qui perd toutes ses finales ou qui perd quasiment tous ses matchs de phase finale, on va dire importants, deux fois de suite. Qui perd en deux années de suite, qui perd en demi-finale du RC, et trois années de suite qui perd en finale de Champions Cup, voire quatre finales consécutives perdues, mais sauf que la dernière était en 2019. Donc il y a eu un moment, et pendant deux ans, ils ne sont pas allés en finale. Sinon, après, ils ont perdu. Oui, effectivement, ils ont perdu.
Quand ils étaient en finale, ils en ont perdu quatre.
C'est les quatre dernières finales qu'ils ont jouées, ils les ont perdues. Voilà,
c'est bien ça.
En Champions Cup.
Mais attention, clairement, ils vont être jaloux. Hein.
Mais il y a des gens qui ne se sont pas manqués de faire la blague sur les réseaux sociaux, et c'est vrai qu'on se dit, si le Leinster ne gagne plus, est-ce que c'est toujours le Leinster? Et est-ce qu'au bout d'un moment, ils ne risquent pas d'y avoir leurs joueurs qui. Forcément, vont être marqués par l'âge. Alors, ils ont l'air d'avoir un beau renouvellement avec, encore une fois, par exemple, McCarthy, qui est absolument sensationnel et qui arrive dans l'écurie. Mais voilà, ça pose des questions sur la longévité du Leinster. Et surtout, quand on voit que maintenant, la charnière de l'équipe d'Irlande, c'est la charnière du Munster, excusez-moi, si on accepte donc Gibson Park, mais qui ne sera pas éternel, hein, qui est déjà quand même un peu vieux, ça pose des questions sur est-ce que le leadership en Irlande n'est pas en train de tourner.
Belle question pour terminer ce flop. Merci beaucoup Erwan. Évidemment en toute modestie, qui a mis aujourd'hui un maillot du Stade Toulousain doré et rouge.
Oui, mais il fallait le garder secret pour la neutralité, voyons.
Oui, bon, c'est la neutralité, Erwan, vous savez, dans l'émission, bon, on est même tapé sur sur les autres et pas sur le Stade Toulousain, évidemment. Julien.
Eh ben écoutez, moi en top, j'ai décidé de parler cyclisme et de qui d'autre que l'extraterrestre Tadej Pogacar. Alors le Tour d'Italie, le Giro, s'est terminé donc dimanche, donc hier, et il s'est terminé d'une manière dont on s'attendait tous, c'est-à-dire Pogacar. Donc il remporte son premier Giro sur sa première participation. Donc,
est-ce que c'est un peu l'Antoine Dupont du vélo?
Ah oui.
Voilà,
oui,
pour comparer un petit peu ceux qui ne connaissent pas.
Donc, tout simplement, tout au long de ces trois semaines de course, il a écœuré la concurrence. C'est-à-dire qu'il a gagné six étapes. Ça arrive que très rarement, d'une facilité déconcertante. C'est-à-dire que le bonhomme, même quand il est premier au général à 5 minutes d'avance sur le deuxième, il s'en fout, il part en échappée tout seul, il va chercher son étape alors qu'il n'a pas besoin. Et sachant qu'en plus, il y a un Tour de France qui arrive dans tout juste un mois, donc on va dire qu'il ne s'est pas économisé, mais enfin, c'est un peu paradoxal parce qu'il ne s'est pas économisé, mais à la fois, il paraissait tellement facile qu'on se dit qu'il n'aura pas trop laissé de plumes pour le Tour de France. Donc, en tout cas, chapeau.
Prétendant au titre au Tour de France.
Ah bah oui.
Voilà, si on doit dire à quelqu'un celui qui va gagner le Tour de France, c'est Pogacar.
Ah bah c'est l'ultra favori, oui. Bon, il s'était fait surprendre 2 années consécutives par Vingegaard, mais bon, lui, il s'est tombé, il s'est blessé.
Il a fait une chute, là, oui.
Ouais, il avait fait une chute, là, il y a 2 mois, il me semble. Donc, à voir, c'est son, on va dire, son principal concurrent. Donc, à voir comment il sera.
S'il se remet pour le Tour de France. Ouais.
Voilà, c'est ça, exactement. Mais sinon, oui, voilà. Donc, saluer la prestation de Pogacar qui est phénoménale. Et ensuite, en flop, on va parler de basket. en ce moment, il y a les finales de conférence en NBA. Et il y a encore un Français qui est en lice, c'est Rudy Gobert, qui joue à Minnesota. Et il faut dire qu'il est. Un peu à l'image de son équipe, en très très grande difficulté, voire même pas très très bon. Surtout qu'en plus, quand on sait quand même qu'il a été élu récemment meilleur défenseur de l'année pour la 4e fois. Donc, faut dire qu'ils sont que 2, enfin ils sont que 3 maintenant à avoir ce titre-là. Et bon, il faut dire que son équipe de Minnesota était quand même favorite pour aller en finale. Et là, en ce moment, ils ont perdu cette nuit de 9 points et donc ils se retrouvent menés 3-0 dans la série. Donc, pour savoir, il faut donc c'est la première équipe à remporter 4 matchs. Et le Français, encore cette nuit, a montré beaucoup de lacunes, a fait beaucoup de fautes, n'a pas répondu présent là où on l'attendait. Et c'était très très décevant de la part de Rudy Gobert, mais on espère en tout cas qu'il va se rattraper et qu'il va surtout être en meilleure forme pour les JO qui arrivent dans un peu de mois.
Est-ce qu'on souhaite pas une défaite rapide de son équipe pour qu'il puisse vite évacuer ça,
pour qu'il soit en canne pour les JO? C'est sûr que on va dire qu'on préfère ça.
Côté basket pour les JO pour l'équipe de France, c'est pas mal quand même. Et, quelques gros noms.
Ah oui.
Grand nom, surtout.
Il y a de grands, oui, grands, dans tous les sens du terme, en plus.
Ouais, là, ça va être assez intéressant à suivre. Merci beaucoup, Julien. Très éclectique comme sélection. Et vous, Coraline?
Moi, mon top, ça serait pour Charles Leclerc. Première victoire à domicile pour le Monégasque ce dimanche. C'est toujours un grand prix particulier, celui de Monaco, avec des dépassements très compliqués. On a d'ailleurs malheureusement pu le voir dès le premier tour avec un accident impressionnant impliquant les deux As ainsi que la Red Bull de Pérez. Charles Leclerc avait réussi à décrocher la pole pendant les qualifications et termine donc ce Grand Prix en tête devant Piastri et son coéquipier Carlos Sainz.
Est-ce que vous voulez des statistiques pour appuyer tout ça, Coraline?
Donnez-moi des statistiques.
Les 10 premiers au départ sont les mêmes que les 10 premiers à l'arrivée.
Ouais,
c'est jamais arrivé dans l'histoire de la F1 et là c'est arrivé. Et sur les dégâts sur la voiture du Mexicain qui a subi le plus de dégâts, il y a entre 2 et 3 millions d'euros de dégâts, ce qui va faire mal à la suprématie Red Bull. Je sais que Corentin ne regarde plus la F1 puisqu'il y a trop de domination de la part de l'équipe au taureau. Là, ça va peut-être rebattre les cartes et le reste de la saison
On est en début de saison après. En effet, à voir sur la fin de saison comment ça va se passer, parce qu'ils sont limités au niveau des dépenses. Donc à voir comment ça va se passer sur la fin de la saison.
Au niveau des Français, c'était pas terrible d'ailleurs.
Pierre Gasly a gagné son premier point de la saison.
Et
Ocon a fait
un peu du saut de mouton sur son pied avant.
A fait la première boue. Non, une nouvelle boulette dans la saison.
Ouais. C'est pas du tout passé d'ailleurs dans son équipe. Il va se faire un peu tirer les oreilles. Il s'est fait tirer les oreilles. Et il aura des places de pénalité pour le prochain Grand Prix qui aura lieu dans 15 jours. 5 places de pénalité. C'est extrêmement dur.
Ce qui est pas mal.
C'est pas mal, mais dans le mauvais sens du terme. Et du coup, ce sera.
C'était pas très malin son.
C'était pas malin, ça avait pas lieu d'être.
Surtout sur un coéquipier.
Voilà, exactement. C'est ce que j'allais rajouter. Surtout sur un coéquipier.
Mais il l'aurait pas fait il y a quelques années. Là, il l'a fait parce qu'à côté, c'est Pierre Gasly, qui sont beau être français, avoir grandi ensemble et être allés les uns chez les autres quand ils étaient petits. Là, c'est plus tellement les meilleurs potes du monde. Donc, c'est ça. Mais l'essentiel, c'est de participer, comme dirait l'autre.
Oui, bien sûr.
Il a pas beaucoup participé. Hein.
Ah non, il a fait 10 virages et puis après, retour
un
à la maison.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. Voilà, on a fait vélo, rugby, basket, F1. Et pour terminer, Coraline?
Et pour terminer, ça sera un peu tout. Puisque c'est.
Allez hop, on s'embête pas.
Ça sera pour la flamme olympique qui a été privatisée. Depuis le 8 mai et son arrivée à Marseille, la flamme olympique parcourt la France entière. Et c'est jusqu'à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques le 26 juillet. Jeudi 23 mai, à 2 reprises, le public n'a pas pu assister au passage de la flamme olympique à Saint-Émilion. Le matin, le cavalier Pierre Durand n'a pas pu être aperçu avec la torche olympique alors qu'il parcourait ses 200 mètres à cheval. Aucun spectateur n'ayant eu l'accès au château Pavie. L'après-midi, c'était pas mieux. voire même pire selon moi. Le sponsor premium LVMH appartenant à Bernard Arnault a eu la chance d'avoir la flamme dans son château. Pour ce qui est du public présent, bah, il s'agissait d'avoir les invitations, sinon vous ne rentriez pas. Les Jeux Olympiques, une fête populaire, comme le voulait l'organisation. Oui. Pas sûr que mettre des billets hors de prix, il fallait les chercher, les billets à 24 euros, et privatiser un des symboles de cet événement sportif aille dans le sens d'une fête populaire.
Oui, la fête populaire, elle est populaire que pour ceux qui ont décidé de mettre 2000 euros dans une place. Voilà.
Voilà.
Chose à noter, Anne Hidalgo, la maire de Paris, va sauter dans la Seine.
Elle va se baigner.
Va sauter dans, ouais, alors on va sauter dans la Seine. Va tremper les pieds, à mon avis. Hein
avant dans le pédiluve.
Ouais, avant le début des Jeux. Ouais, ça a été annoncé à date.
Le 23 juin, tout à fait. Ouais, c'est ça. Le 23 juin. Sauf que là, il y a eu déjà des.
Ce sera la veille de la semaine de la dernière émission. On pourra en parler d'ailleurs.
Il y a des personnes qui ont invité d'autres personnes à faire des choses dans la Seine.
Oui, pour le passage à déféquer dans la Seine.
Exactement. Je n'osais pas le dire, mais.
Oui, bon. Ça va être intéressant, ce petit plongeon dans la Seine d'Anne Hidalgo. Ça va être pas mal.
Surtout s'il a plu avant.
Oui, en espérant quand même qu'il n'ait pas plu. On lui souhaite pas d'attraper une bactérie quand même.
Mais de toute façon, je suis prêt. Petit instant pronostic, je suis prêt à mettre ma main à couper.
Oula.
Qu'elle n'y mettra pas plus que les genoux dans l'eau. C'est pas possible.
Ah bah non.
Elle fera peut-être quelques brasses. Après, son fils a nagé dans la Seine, il me semble. Parce que son fils a fait plusieurs défis pour dénoncer la pollution justement du fleuve.
Oui,
mais il est remonté le long de la marge. Mais
Hidalgo n'est pas son fils.
La Seine. Oui, mais bon, si son fils a survécu, peut-être, peut-être que les gènes d'Anne Hidalgo qu'elle lui a donné lui permettent de survivre aussi.
Anne Hidalgo, grande sportive qui était championne, non d'ailleurs. mais voilà, ça va être intéressant. On va voir tout ça. Hein. On a hâte de voir ce petit plongeon. En flop, on aurait pu mettre aussi Hugo Gaston, qui a perdu à Roland Garros. Déjà, c'est terminé pour Hugo Gaston, et on attendra sa réaction dans quelques instants. Mais il jouera en double aussi avec Richard Gasquet cette semaine. Petite question pour Héro, enfin pour tout le monde d'ailleurs. On a parlé d'Antoine Dupont. Est-ce qu'il va jouer en Espagne au Seven?
Oui, ça a été annoncé à l'heure. Officiellement, il est dans le groupe de l'équipe de France.
Donc il jouera contre l'Australie à 19h vendredi, contre l'Argentine samedi à 18h et contre la Grande-Bretagne à 20h.
Gros programme par rapport à l'Argentine, qui est déjà championne du World Series, enfin du Sevens du coup maintenant, le nouveau nom, et qui l'a été pour la première fois de son histoire et qui tout simplement, sûrement dans son effectif, donc on met 7 mecs sur le terrain, franchement je crois qu'ils ont au moins 4 des 7 meilleurs joueurs du monde dans leur
effectif. Ah oui, bah c'est pas mal, 4 sur 7.
Ils sont largement favoris pour la médaille d'or à Paris, mais ça pourrait être un excellent test pour les Français si jamais ils arrivent à trouver les solutions pour les battre.
Et la Grande-Bretagne aussi qui fait de très très bons résultats.
Grande-Bretagne qui fait de très bons résultats, mais sur lesquels on a eu un peu plus de facilité cette saison, même si on a perdu contre eux lors du dernier à Singapour.
Il y a France, Australie, Argentine, Grande-Bretagne. Donc
l'Australie a un petit peu de mal aussi. C'est-à-dire que l'Australie et la Grande-Bretagne sont prenables, mais il ne faut pas les prendre de haut. Par contre, l'Argentine, ça va être très très compliqué. Effectivement.
Ça va être un test match. Eh bien, merci beaucoup pour ce petit supplément dans ces top et flop. Tout de suite, l'entretien olympique, on va parler sport de combat.
Esprit Sport, le face-à-face.
Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Zoubir Kefi. Bienvenue dans Esprit Sport, merci d'être présent aujourd'hui.
Je vous remercie, merci beaucoup de m'avoir invité.
Alors, on va parler d'art martial, le taekwondo. Alors, petit point palmarès, vous êtes 11 fois champion de Midi-Pyrénées. Vice-champion de France 1996-1999. Champion de France en 2020. Vous avez fait plusieurs fois 3e à des Open internationaux. Vainqueur du Trophée des champions 2002. Sélectionné au championnat d'Europe 2000. Et vous avez aussi fait la préparation des Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Quel parcours ?
Oui, okay, c'est un petit parcours. Hein.
Quand même, c'est déjà bien. Pour vous dire, moi j'ai juste fait un entraînement, ça m'a suffi. Donc félicitations pour tout ça. Hein. Et pour commencer après cette belle carrière, au tout début, comment cette histoire a commencé ? Comment vous vous êtes intéressé au taekwondo ?
Alors moi déjà tout petit, je baignais dans les arts martiaux. Je suis la génération un peu Bruce Lee. Hein. J'ai grandi comme tous les enfants de ma génération avec les films de Bruce Lee. Donc on a rêvé devant ses techniques, ses coups de pied. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait... Qui a permis quand même au monde des arts martiaux de bien se développer. Donc ça, c'est vrai que ça a été un grand tremplin pour nous. Donc ça, Et puis après, ben, petit à petit, on a commencé par des disciplines avec des copains de quartier, comme le karaté, des sports qui étaient un petit peu plus conventionnels. Et puis un jour, un ami a découvert cette discipline qui venait de débarquer en France, le taekwondo. Donc il m'a dit, viens, on va essayer. J'ai trouvé ça génial. C'était une technique très aérienne, très spectaculaire. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Ça a été très, très rapide. Le coup de cœur s'est fait très, très vite.
Oui, on peut voir des vidéos sur Internet quand vous pratiquez. Oui, on a vraiment cette impression de légèreté, de voltige même. C'est presque. Alors, c'est un peu plus physique que de la danse, un peu plus. Pas physique, mais un peu plus combatif que de la danse, parce qu'il y a quand même quelqu'un en face. Mais c'est cet aspect incroyable.
Paradoxalement, moi, j'ai même le sentiment en fait, qu'on pourrait comparer le taekwondo, très honnêtement, à de la danse ou à du patinage artistique, avec une finalité qui est très différente, mais ça reste de l'expression corporelle avant tout. Donc on est très aérien, il y a beaucoup d'envolées, beaucoup de sauts, de rotations. Alors c'est vrai que c'était peut-être un petit peu plus explosif, et encore que quand on regarde les prestations des danseurs, en danse classique ou toute autre forme de danse, ça reste quand même aussi très sportif, hein. La seule différence, c'est que nous, voilà, au bout du mouvement, il y a un impact qui est porté.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la compétition et même de la compétition à haut niveau ?
Ah, c'est le dépassement de soi. Alors là, c'est indéniable. C'est le dépassement de soi, l'envie de pouvoir aller au-delà de ses limites. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment, vraiment donné envie. Et puis quand j'ai goûté pour la première fois, j'avoue que très sincèrement, ça n'avait pas très très bien fonctionné. Mais j'ai vite accroché parce que j'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'atmosphère, d'ambiance dans la compétition qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ce stress, cette adrénaline en fait qui fait un bien fou, donc qui réveille tout ce qui est endorphine et qui nous permet de vraiment, vraiment aller au-delà de ce que l'on peut imaginer être des limites que l'on puisse avoir. Moi, ça m'a plu très, très vite. Donc ben voilà, et puis je m'y suis intéressé de plus en plus jusqu'à ce que les résultats arrivent assez tard. Parce qu'il m'a fallu quand même au moins 2-3 ans avant de pouvoir réellement performer. C'est vrai que ce n'était pas forcément évident. Et puis après, ben, une fois que ça a accroché, ben, c'est parti.
Pour tous ceux qui ne voient pas ce que c'est le taekwondo, comment on peut le résumer ? Alors c'est très loin du judo, parce qu'il n'y a pas d'accroche au kimono. C'est pas vraiment du karaté, parce que c'est plus souple, on a envie de dire. Comment on peut le résumer ?
En fait, il y a deux approches. On a la forme sportive, c'est celle que vous allez voir aux Jeux Olympiques. Donc là, c'est le taekwondo très sportif, celui qui est extrêmement développé, le plus répandu et qui surtout évolue d'année en année, à chaque fois, puisqu'il y a un système de touches sur les placements électroniques, ce qui n'était pas le cas, moi, de mon temps. Donc en fait, les techniques de jambes changent, tout change. C'est vraiment un petit peu comme de l'escrime. Et il y a la forme traditionnelle. Donc le taekwondo sportif est un taekwondo très aérien. On travaille énormément sur les techniques de jambes. Il y a 90% de travail en fait, qui est fait avec les techniques de jambes. Donc ça tourne dans tous les sens. Et il y a un petit peu de techniques de poing, mais très peu, parce que les coups de poing ne sont autorisés qu'au niveau du plastron, au niveau du corps. Et il n'y a qu'une seule touche de poing qui puisse être validée. Donc les enchaînements de poing, par exemple, ne serviront à rien. Alors qu'avec les jambes, en revanche, on peut enchaîner. Et il y a la forme traditionnelle qui, elle, ressemble beaucoup plus à tous les arts martiaux classiques, avec une partie self-défense, avec une partie très traditionnelle sur les enchaînements techniques qu'on appelle, nous, des pumse, qui sont l'équivalent de kata en karaté. Il y a un travail au sol, il y a un travail avec des armes également. Donc c'est une discipline en fait qui est très riche. C'est un art qui a plus de 2000 ans d'existence et qui n'a cessé d'évoluer. Donc ça reste quand même, comme tous les autres arts martiaux, une discipline qui est très, très chargée, très fournie.
Justement,
on y retrouve un petit peu tout. Mais ce qu'on met le plus à l'avant, c'est la forme sportive. C'est le taekwondo combat.
C'est plus peut-être plus spectaculaire.
Voilà, exactement. Et c'est ce qui me plaît vraiment. Après, de toute façon, je pratique les deux. Étant enseignant maintenant, de toute façon, je pratique les deux. J'enseigne vraiment les deux. Parce que dans la partie aussi traditionnelle, on va travailler beaucoup plus le contrôle de soi, le contrôle de ses mouvements. On est vraiment beaucoup plus dans une approche un petit peu plus... on y intègre pas mal de valeurs, vous savez, ce sont les notions classiques en fait des arts martiaux, la courtoisie, l'intégrité, la persévérance, le courage, toutes ces choses-là qu'on essaie de mettre en avant et qui aident aussi pas mal quand on est par exemple quelqu'un de très introverti ou quelqu'un au contraire de trop extraverti. On va apprendre à se contrôler grâce à ces mouvements-là qui nécessitent beaucoup plus de contrôle, parce que toute la partie technique, il faut savoir que c'est une partie qui souvent n'est pas une partie forcément concrète, parce qu'on travaille seul, dans le vide, des mouvements, avec aucune touche derrière. Et c'est vrai que c'est pas évident de se motiver quand on continue à travailler comme ça. Quand vous êtes sur une forme plus sportive, vous travaillez avec un partenaire en opposition, vous avez des cibles dans lesquelles vous allez pouvoir développer en fait vos techniques et frapper, vous libérer. C'est vrai que c'est très différent. Mais les deux approches sont très complémentaires, hein. très très complémentaire. Et puis on a même une version dans le taekwondo en fait qui est beaucoup plus intériorisée, qu'on appelle le sonmudo, qui est une forme un petit peu plus, je dirais, pas tai chi, yoga, mais très intérieure en fait. Mais celle-ci est très peu développée parce que beaucoup de gens n'ont pas forcément, quand on pense au taekwondo, envie de penser à ce côté-là.
On voit beaucoup de similitudes avec le judo et le karaté, cet aspect de maîtrise de soi, de dépassement de soi. Bon, ça on le retrouve un petit peu dans beaucoup de sports, mais de kata pour le karaté, voilà, avec les bumse au taekwondo. Il y a beaucoup de similitudes, mais c'est quand même des disciplines assez différentes.
Oui, complètement. Même ça, ce sont les arts de la guerre, hein, les arts martiaux. Donc, les valeurs, en fait, on va les retrouver dans tous les arts martiaux, qu'ils soient d'Inde, qu'ils soient d'Asie, qu'ils soient de, peu importe, d'Amérique du Sud, même d'Afrique, puisqu'on a des arts martiaux là-bas aussi. En fait, les valeurs resteront très, très souvent les mêmes. Hein, donc, il y a l'humilité avant toute chose, et puis après, bah, de toute l'intégrité, le contrôle, etc. Hein. Donc, mais la forme sportive, il est vrai que c'est une forme très, très différente et qui, d'ailleurs, a souvent tendance, malheureusement, maintenant, à s'éloigner un petit peu de ses valeurs. On est plus dans la performance maintenant, quand on est dans cette approche-là, et on en oublie un petit peu l'essentiel qui nous permet de vraiment avancer, à savoir avoir un mental de guerrier, quoi, considérer que les valeurs en fait sont la priorité pour pouvoir avancer.
Alors vous êtes maintenant maître instructeur, mais comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, vous avez fait la préparation olympique des Jeux de Sydney en 2000. Comment, en tant que sportif de haut niveau, vous avez préparé ces Jeux Olympiques? Nous, en France, ça arrive dans peu de temps. Comment on se prépare à ça en tant que sportif?
Ça, c'est le Graal. Hein. Vous savez, c'est...
Déjà, comment on apprend qu'on va participer à cette préparation? Comment vous l'avez vécu, vous?
Ben, en fait, ce sont les instances en fait, fédérales hein, qui vous convoquent et qui vous disent, voilà, vous faites partie du potentiel en fait, athlète qui va très certainement représenter la France à telle activité. Donc, vous avez des convocations. Ensuite, on a des préparations avec des stages. Moi, de mon temps, ces stages-là se faisaient dans des pôles. En fait, on n'avait pas l'INSEP hein, à l'époque. Donc, on faisait ça sur des crêpes, on faisait ça à Font-Romeu au lycée climatique. Donc, où il y a des structures qui permettaient de s'entraîner. Et puis après, il y a toute une préparation qui est faite avec beaucoup de sorties et d'échanges avec des pays étrangers. Vous allez faire en fait ce qu'on appelle des open, donc des rencontres pour vous préparer à affronter les meilleurs de manière à être prêt le jour J. Tout simplement. Après, par contre, il y a une chose qui a beaucoup évolué depuis, c'est que maintenant, il y a un gros travail qui est fait sur l'aspect mental, ce qui ne se faisait pas trop avant. Il y a beaucoup de préparateurs, en fait. Avant, on n'avait quasiment que les préparateurs physiques. Maintenant, on se retrouve avec beaucoup de préparateurs mentaux. Donc ça, c'est très bien, parce que ce qui pêche très souvent dans le haut niveau, c'est le mental, c'est pas forcément la technique. La plupart des athlètes, quand ils sont à ce stade-là, ils ont le même potentiel, ils ont le même niveau technique. La différence, elle va se faire à celui qui aura l'envie de passer au-dessus de l'autre. Et ça, c'est le mental. C'est ce qu'on trouve très souvent également dans le tennis, hein, par exemple. La peur de mettre la balle à côté, et c'est pour ça qu'ils travaillent beaucoup avec des préparateurs mentaux. Hein.
Il va falloir surtout gérer cette émotion, puisque là, les JO seront à domicile, donc il y aura une envie des sportifs français de réussir à la maison et de pas être ridicule, même si on ne l'est jamais, hein, parce qu'on participe quand même à une des plus belles compétitions mondiales. C'est vraiment compliqué à gérer. On rappelle en plus qu'en France, on a déjà des médaillés.
Althea Lorrain, absolument.
Médaille de bronze en 2021.
Et donc, qui est d'ailleurs la grande favorite maintenant, elle est classée au ranking, elle est numéro 1 mondial.
Voilà, donc on espère que après le bronze, on va peut-être passer à l'argent, voire alors.
On a 2-3 athlètes qui sont potentiellement vraiment susceptibles de ramener de l'or. Il y a Magda Vietnamien aussi, à moins de 67 kilos, qui est numéro 1 mondial. Et puis chez les garçons, il y a un petit jeune, Alan Philippe, qui est vraiment très très bon et... qui actuellement est en train de vraiment performer dans une catégorie très relevée, la catégorie des moins de 68 kilos. Je pense qu'il y aura quand même une médaille au bout pour les garçons pour la première fois de l'histoire du taekwondo français. Pascal Gentil.
On se souvient de Pascal Gentil qui avait fait bronze en 2000 et 2004.
Exactement, tout à fait, qui est passé à côté de l'or en 2000 d'ailleurs, hein. C'est bien dommage. Et malgré lui, le pauvre.
Est-ce que 2024, vous pensez que c'est l'année des Français au taekwondo?
Ah, moi, je reste persuadé qu'on aura une médaille d'or. On fait une médaille d'or cette année.
Ah, j'en suis convaincu. C'est bien,
la préparation est bonne. L'équipe est vraiment bonne. L'équipe n'a jamais été aussi bonne. Donc, non, il y aura une médaille d'or. Ça, c'est certain.
C'est bien. Comme ça, on pourra dire qu'on l'a entendu avec vous en premier ici dans cette émission. Quel est le moment marquant de votre carrière qui vous a vraiment le plus marqué? Si vous devez nous en citer un là, maintenant, tout de suite, ça serait quoi?
C'est compliqué parce que.
Il doit y en avoir plusieurs avec, avec tous ces palmarès. 11 fois champion de Midi-Pyrénées.
Ouais, ça encore, c'est pas. Non, mais même, honnêtement, ce ne sont peut-être pas les podiums. Moi, je dirais c'est plutôt les rencontres que je fais. Voilà, en tant qu'enseignant.
Le chemin, en fait, qui est plus beau que l'arrivée.
Ouais, mais j'ai mis du temps, en fait, à me persuader. Parce que moi, j'enseigne depuis très longtemps. Même en étant athlète, j'enseignais également. Donc, j'ai commencé à donner des cours en 92, vous voyez. Donc, alors que j'ai démarré le taekwondo en 89. Donc, j'ai commencé très tôt à enseigner. Alors, je suppléais plus mon enseignant de l'époque, mais jusqu'à le remplacer sur beaucoup de sections au bout d'un moment, très rapidement. Mais moi, ce qui m'a le plus... Ce sont les rencontres, en fait, qui sont pour moi le point le plus marquant, parce qu'on a toujours des petites histoires avec des gens qui ont des particularités, surtout les enfants. Quand vous recevez un enfant avec un handicap très important et pour lequel personne, en fait, n'a envie d'accorder d'importance, et qu'au final, en fait, cet enfant s'accroche à l'activité parce que là, il se passionne, il a envie d'avancer et vous le voyez progresser, ça m'a plus marqué que les podiums que j'ai pu faire. Ce sont vraiment les rencontres, je dirais.
Les expériences de vie qui font que grâce au taekwondo, on sent vraiment une vraie passion.
Vous savez, mais j'aime ça. J'ai quelques enfants, j'ai eu des enfants qui étaient autistes, j'ai eu un petit peu de tout, avec certains handicaps qui vraiment les excluaient complètement de la vie de tous les jours. Et ces enfants-là ont réussi à trouver un équilibre dans l'activité. Et ça, pour moi, c'est plus marquant que tout le reste. Vraiment. Parce qu'après, le titre, on en a eu. J'ai même une de mes anciennes élèves qui a gagné la Coupe du Monde de la Francophonie. J'ai eu pas mal de titres, de vraiment, vraiment de titres. Mais en fait, ça ne fait que passer, toutes ces choses-là. Ça vous marque, mais ça ne fait que passer.
Les titres passent, mais l'expérience reste et marque vraiment le sportif. Ou vous, en l'occurrence.
Oui, c'est ça. Après, bon, évidemment, je veux dire honnêtement, toutes les compétitions que j'ai pu faire, elles ont toutes été très belles. Ça a toujours été... un grand moment, ça a été fantastique. Et puis même, très sincèrement, même les fois où il n'y a pas eu de résultat. Hein. Parce que c'est toujours pareil, il y a cet aspect humain qui est toujours mis en avant. Vous rencontrez des gens, vous voyagez à travers le monde. Et ça, c'est fabuleux. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Mais il faut savoir faire la part des choses et se dire que ça ne dure qu'un temps. Ça ne peut pas être éternel. Et puis c'est surtout qu'il faut arriver à se construire, il y a un après. Et c'est ça qui est le plus important. Et ça, c'est peut-être le côté le plus compliqué de l'athlète de haut niveau. De se dire qu'il y a un moment où tout s'arrête, et quand tout s'arrête, on n'est plus rien. Et c'est là où il faut arriver à trouver la passerelle pour se reconstruire, et d'où l'enseignement. Voilà. Donner des cours et continuer en fait cette notion de transmission.
Vous, en tant qu'enseignant, vous attendez quoi de ces JO 2024? Peut-être plus de lumière sur cette belle discipline?
Ça serait une belle chose, parce que c'est vrai qu'on est encore un petit peu dans l'ombre, bien qu'on parle de plus en plus de quand même notre discipline, maintenant. Mais... Non, c'est vrai que ça serait bien, parce qu'un titre, ça fait quand même toute la différence, et ça permettrait de mettre un petit peu plus en avant ce sport. On est quand même dans un pays où, je parle pour la France en fait, où c'est vrai que c'est très compliqué, parce qu'on s'attache beaucoup à les traditions. La France, c'est le judo, et c'est vrai que le judo français, c'est son numéro un au monde depuis des années et des années. C'est une très très belle école de judo. Ils sont très forts, ils ont des valeurs qu'ils ont réussi à développer, à mettre en place, mais même dans le système scolaire, puisqu'on retrouve pas mal de clubs de judo en fait dans les écoles, et ils ont été très très forts pour ça. Là, honnêtement, c'est fabuleux ce qu'ils ont fait. Mais il faudrait que d'autres disciplines puissent enfin pouvoir aussi s'exprimer et montrer un petit peu ce qu'elles valent. Et pour ça, il faudrait que les médias et le tout public s'intéressent un petit peu plus à eux. Et il est évident que les Jeux Olympiques, ça reste une passerelle pour ça. C'est même un tremplin. Donc on espère avoir une médaille d'or pour qu'on puisse enfin nous mettre un petit peu plus en avant.
Eh bien, on l'espère fortement, cette médaille d'or pour les sportifs français, et notamment en taekwondo. Merci beaucoup, Monsieur Kefi, d'avoir répondu à nos questions. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2024?
De continuer à avoir la foi, la passion, et puis donner toujours autant d'énergie dans ma transmission de cet art que j'adore. Hein. C'est surtout ça. Hein.
Ouais, donc Donc on suivra l'actualité du taekwondo pendant ces JO, évidemment, et on y jettera Erwan pour faire un test aussi sur cette discipline, comme il a l'habitude de faire. Dans quelques instants, on va parler évidemment de tennis. Roland Garros a commencé, il y a déjà quelques chutes à l'avant du peloton, et on verra surtout si vous allez regarder Roland Garros cette année. On se retrouve juste après une petite musique romantique.
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us, building them castles in the sky. Just the two of us, you and I. Drops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Après ce moment de caprice à 4, du coup, dans l'émission, plus vous. Tout de suite, on parle du débat et surtout, on parle de Roland Garros. Alors, on l'a vu, si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre. Roger Federer n'est pas à Roland Garros cette année puisqu'il a arrêté sa carrière. Rafael Nadal a perdu. Hugo Gaston, le régional de l'émission, a aussi été éliminé en simple. Il va jouer en double encore. Bonne nouvelle quand même, Richard Gasquet a gagné. Mais concrètement, est-ce que vous qui nous écoutez, vous autour de la table, est-ce que vous allez regarder Roland Garros ? Peut-être qu'avec tout ce qu'il y a à regarder, le foot, le rugby, la FM, maintenant quelques sports de combat, les JO qui vont arriver, la Coupe d'Europe, d'à peu près tous les sports, est-ce que malgré tout ça, vous allez aussi regarder Roland Garros? Julien?
Un petit peu. Si je devais être... déjà, le tennis, de base, je n'en consomme pas non plus énormément.
Pas plus que ça, quoi.
Non, pas plus que ça. Mais après, évidemment, ça reste quand même Roland Garros. C'est Cocorico, c'est chez nous. C'est, voilà,
c'est un tournoi mythique, terre battue.
Ouais, voilà, c'est un des plus mythiques. Donc, oui, donc forcément, on va quand même y jeter un œil. Et peut-être, quand ce sera les parties un peu plus intéressantes, genre
finale, hein.
Dernier carré, ouais. Quart de finale. Voilà, parce que là, on est au tout début, premier tour... Il y a beaucoup de matchs, et même ça, il y a un peu cette comme on en parlait justement Jonathan, il y a plus les Federer, les Djokovic, tout ça, et ça fait quand même un petit effet de plus avoir ce règne, on va dire, de ce Big Four. Et
je vous coupe, mais Djoko il y est, hein.
Djoko y est. Mais bon, quand encore, on regarde l'état de forme de ces dernières semaines, c'est un peu compliqué, donc difficile de l'imaginer revenir, enfin parce qu'il avait gagné l'an dernier. Donc, difficile de le revoir gagner, surtout quand on voit la nouvelle génération avec Yannick Sinner qui sont très très solides. Donc, c'est un peu. On va pas tout regarder, mais on va regarder quand même quand ça va commencer à devenir croustillant.
Sinner qui jouera mercredi contre Richard Gasquet.
C'est ça.
Voilà, en plus. Donc, il y a quand même les éternels, Wawrinka, Gasquet, Dimitrov, y en a encore beaucoup, hein. Y a Nishikori aussi. Beaucoup de personnes qui parlent au niveau de Roland Garros et qui sont là depuis des années. C'est vrai que on va pas se mentir, on a grandi avec la Sainte Trinité, Federer, Nadal, Djoko, même Tsonga dans ses belles époques.
Murray qui a été battu par Wawrinka justement.
Voilà, donc on a grandi avec eux à Roland Garros. Je pense notamment à l'époque où bac et brevet, on devait sûrement réviser et c'est tombé la période de Roland Garros. Et voilà, Coraline qui, ça remonte à il y a longtemps.
Non, mais c'est exactement ça, c'est le coup de vieux qu'on se prend quand on réalise que Nadal prend sa retraite et alors que nous.
38 ans.
Alors que nous, on l'a vu jouer avec des cheveux.
Et nous, on l'a vu jouer avec des cheveux.
Oh, il y en a toujours un peu.
Oui, bon.
Il y en a toujours. Il y en a toujours.
C'est-à-dire que, voilà.
Faites attention, Erwan, parce que ça vous guette à moi.
Ouais, c'est sûr. Ses cheveux aussi longs que lui, à l'époque. Mais c'est vrai que, étant donné qu'il y a plus ces grands noms du tennis, est-ce que ça s'essouffle pas un peu à vos yeux? Je sais qu'Erwan, vous, le tennis, les phases finales, le dernier carré, et après, voilà.
Alors, en général, en vrai, je regarde quand même pas mal Roland Garros. Les autres tournois, surtout du Grand Chelem. Je vais recommencer peut-être. Les autres tournois du Grand Chelem.
C'est avec des mots dans un ordre.
Exactement.
Et peut-être en français.
Mieux.
Je sais que vous êtes.
Les autres tournois du Grand Chelem, j'essaie de regarder un peu. Je regarde aussi Wimbledon, parce que forcément, niveau horaire, c'est plus simple.
Ah oui, vous aimez le top du top, vous. Le meilleur de la terre battue, le meilleur du gazon.
Ah non, mais parce que je j'aime bien le tennis, mais je suis pas un fan absolu, donc d'accord. Effectivement, ce que je vais regarder, c'est surtout les
Miami, tout ça, ça vous intéresse pas?
Pas tellement, je vais pas mentir.
Très
voilà.
Bien.
Donc je regarde un peu. Là, cette année, je vais peut-être un peu regarder de loin parce que, comme on le disait, en fait, il y a un grand buffet. Roland Garros, c'est un grand buffet, et là, ce qu'on nous propose est peut-être moins, pas forcément moins bon, mais moins alléchant que les années précédentes. Ça se trouve, les matchs seront tout aussi palpitants, mais c'est vrai qu'on retrouve plus forcément ces noms qui ont fait un peu la nostalgie, enfin qui font la nostalgie en fait actuelle du tennis, parce que oui, c'est de la nostalgie. Ils sont pour la plupart partis ou plus dans leur forme exceptionnelle. On parlait de Wawrinka, Murray, etc., qui sont maintenant des bons joueurs au niveau mondial, mais qui sont plus du tout au niveau auquel ils prétendaient il y a maintenant presque 10 ans. Federer qui a pris sa retraite il y a un petit moment maintenant, Nadal qui essaye de repousser l'ultime échéance, Djokovic qui est encore quand même qui est bon, même qui gagne quand même encore beaucoup de titres, mais qui n'est plus aussi impérial, même si l'année dernière il avait su montrer à Roland Garros que faut quand même pas oublier que c'est un sacré joueur. Donc voilà, peut-être qu'on va avoir un retour en force de Djokovic pour ce moment-là, peut-être aussi un retour en force d'Alcaraz, qui n'est pas forcément hyper bon depuis on va dire 8 mois. Il déçoit un peu, on l'attendait vraiment comme le roi de la terre battue et surtout le roi de la nouvelle génération, entre guillemets, du tennis mondial. Et au final, on voit qu'avec des Casper Ruud, des Sinner, notamment Sinner qui a vraiment fait une excellente année, c'est un peu plus compliqué, et donc peut-être que il y aura quelques bons scénarios qui vont se dessiner, mais je pense que pour beaucoup ça va jouer en fait au scénario que va créer cette édition de Roland Garros pour attirer les foules.
Petite question pour vous qui ne rapporte rien. Est-ce que vous savez, donc Rafael Nadal ne jouera plus à Roland-Garros, il a perdu, c'est fini, et c'est sûrement le dernier Roland de sa carrière. Est-ce que vous savez au classement ATP où il se situe à l'heure actuelle?
Dans les 200e.
Non, là, il va falloir être plus précis.
179, non?
Alors, je vous laisse 5 d'écart.
Je crois que c'est 170, c'est 175 ou 179, il me semble.
Très bien.
170.
Ok.
210.
275e au classement ATP.
Ouais.
Rafael Nadal a été plusieurs années d'affilée premier mondial. Là, il finit sa carrière à Roland-Garros à 275e mondial.
Mais d'où le fait justement qu'il a affronté Zverev.
Parce qu'il était très mal classé, oui. Après, il n'a pas beaucoup joué ces derniers temps, donc voilà. C'est pour ça. Mais bon, ça reste quand même un monument du tennis.
Mais c'est surtout, j'ai vu une stat, je ne veux pas me tromper, mais il me semble que c'est ça, et son bilan à Roland-Garros. Qui me semble de sur 115 matchs, 112 victoires. Bon, c'est quand même pas mal.
Et avant le match contre Zverev, seulement 3-7 perdus.
Il en a perdu 3 contre Zverev.
Voilà. Non, mais là, du coup, il a 6 perdus maintenant. Mais sinon, durant les nombreux Roland Garros qu'il a effectués, seulement 3-7 perdus. C'est quand même une stat. Ça pèse quand même.
Enfin, ah oui, c'est pas mal. Ouais, oui. Et vous, Corinne, est-ce que vous allez suivre attentivement ce Roland Garros? Est-ce que vous allez le regarder avec des Arthur Fils qui arrivent, des autres noms que je n'ai plus en tête là maintenant tout de suite? Mais est-ce que vous allez suivre ça avec attention?
Je pense que je vais le suivre en effet, mais comme mes collègues autour de la table, plutôt la deuxième semaine pour les phases finales. En effet, là pour l'instant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs et il y a beaucoup de matchs à s'enquiller quand même dans une journée. Donc là, oui, c'est vrai que avant l'émission,
je vous cache pas qu'il y a eu un match observé. Oui, effectivement.
Il y a eu le Zverev Nadal en effet, mais parce que c'était peut-être le dernier match de Nadal à Roland Garros et que c'était un petit moment quand même historique un petit peu quand même. Après, malheureusement. En effet, avec la fin de ce qu'on appelait le Big Four, donc à savoir Federer, Nadal, Djokovic et Murray, avec la fin de ce Big Four, même si il reste toujours Djoko, je pense que le tennis mondial va perdre un petit peu de sa saveur et pendant peut-être quelques années.
D'attractivité.
Ouais, exactement, tout à fait. Et peut-être que pendant quelques années. Va y avoir un petit trou et les gens vont peut-être pas les connaisseurs comme moi qui sont connaisseurs de très loin on va dire vont peut-être pas forcément trop s'intéresser au tennis mondial. Après Roland Garros ça reste Roland Garros, c'est en France donc bien sûr qu'on suit quand même un petit peu quand même.
Après côté français, ça va être plutôt bien. Il y a Lucas Van Nash aussi qui va jouer. Il y a Arthur Fils.
Arthur Fils qui vient de perdre hein, justement.
Qui vient de perdre. Yes, super. Cette tradition à la française voilà. Qu'on apprécie à Roland Garros. Corentin Moutet qui a gagné, lui. On va peut-être parler de ceux qui gagnent.
Gasquet. Eh,
Gasquet qui a gagné, voilà.
Oui, après on se donne rendez-vous au prochain tour et puis on fera les comptes.
Ouais, généralement c'est deuxième semaine. On regarde. Après chez les féminines aussi, il y a Caroline Garcia. Qui a gagné. Donc voilà, là aussi c'est à suivre avec attention.
Alors hier a été une très bonne journée pour les Français.
Mais généralement quand on passe la première journée, c'est plutôt pas mal. Deuxième statistique, est-ce que vous savez combien de la somme que les joueurs gagnent quand ils perdent au premier tour? Là, je vous demande le compte rond.
Je pense peut-être
50 000, j'aurais dit
30 000.
C'est 20 000. Voilà, 20 000 euros pour un premier tour perdu. Bon, si les Français pouvaient au moins passer un deuxième, ça serait pas mal. Quand même, hein, parce que l'anecdote sur Yannick Noah, là, on commence à en avoir un peu marre. Non pas qu'on n'aime pas Yannick Noah, on l'aime beaucoup.
Surtout qu'il y a Gaël Monfils aussi.
Il y a aussi Gaël Monfils aussi. Oui, mais lui,
qui est toujours capable du meilleur comme du pire.
Très spectaculaire comme
joueur. C'est ça, voilà, exactement.
Gaël Monfils, on apprécie Gaël Monfils avec son jeu. Voilà, alors, c'est bien, on a bien vendu Roland Garros, là. C'est pas mal. En tout cas, on va évidemment suivre la performance des Français. On a justement la réaction de Hugo Gaston après sa défaite aujourd'hui.
Ouais, bah forcément beaucoup de déceptions. On connaît tous Ben, c'est un très bon joueur. Il a joué de mieux en mieux, donc faut déjà le féliciter. Après, j'ai pas fait mon meilleur match, mais j'ai fait avec ce que j'avais aujourd'hui. J'ai donné le max. Quelques regrets sur les fins de set à chaque fois. On entame du deuxième set aussi, même si je suis devant, je me fais breaker assez rapidement. Troisième set, j'ai le break. J'ai une balle de double break que je fais pas et voilà, après il y a une petite interruption, il revient mieux que moi. Puis voilà, ça se joue à 2-3 points près, donc la déception, un peu de frustration, mais voilà, c'est le tennis. Ouais, je l'ai breaké 3 fois, 2 fois au premier, 1 fois au troisième. Voilà, contre ce genre de joueur, quand tu le break, il faut confirmer derrière, je ne l'ai pas toujours fait. C'est dommage, mais voilà, j'arrivais à bien l'embêter. Il m'embêtait pas mal aussi, mais il sert très très bien et j'ai pas su confirmer ça. Bien, forcément, je vais pas dire le contraire, le public m'a encouragé, c'était dingue. On a de la chance d'avoir un tournoi comme ça en France, donc il faut en profiter. Ils ont tout donné, j'aurais aimé leur rendre, mais bon, c'est comme ça. Je vais essayer de m'améliorer et être meilleur l'année prochaine, mais forcément sur un terrain comme ça, voilà, il y avait rien de grave, donc ça c'est toujours des petits pépins, mais non, très bien, le corps va bien, la tête va bien, forcément là il y a de la déception, mais voilà, on va se relever et travailler.
Relever et travailler, voilà, c'est ce qui reste à faire pour Hugo Gaston, mais on continuera de suivre les jeunes et moins jeunes français dans ce tournoi. Avant de terminer l'émission, on pronostique les matchs du week-end. Petite sonnerie multiplex parce qu'il va s'en passer des choses. On va passer rapidement sur le stade toulousain La Rochelle qui a lieu ce week-end. Erwan, peut-être pas les 30 secondes, ça va aller vite à mon avis sur celle-là. Erwan, vous voyez qui malgré le maillot rouge et noir et doré?
Écoutez, moi je vois en vrai, je vois bien quand même Toulouse. Je vois bien je vais faire très vite. Je vois bien La Rochelle arriver en se disant ah, on arrive dans le bon timing, et puis les espoirs toulousains qui ont en fait régalé pendant le doublon, qui ont été les meilleurs, la meilleure façon du doublon, en fait l'équipe B qui a pas forcément joué là sur le match contre le Leinster, venir et en fait voilà, plein de confiance et battre La Rochelle. Par contre, j'imagine pas du tout un match largement gagné.
Très bien. Alors, on a entendu Julien soupirer. Julien, vous, La Rochelle, parce que Toulouse a annoncé envoyer l'équipe.
Oui.
Alors la B et la C, c'est fort quand même. La D, E, F peut-être.
Voilà, ouais, la D, hein, peut-être, la D, hein, à peu près. Hein. Non, mais après, je m'attends quand même à une victoire de La Rochelle. Bon, mais pas une large victoire non plus, parce que il faut savoir que La Rochelle, ils sont cinquième.
Ils jouent leur saison.
Mais ils jouent leur saison, et surtout, ils ont leur dernier match, qui est contre le Racing, qui est sixième. Enfin, c'est là, Erwan dit que La Rochelle se verra peut-être un peu trop beau, mais je pense qu'au contraire, et connaissant... le staff Rochelet et O'Gara, tout ça, je pense qu'ils vont être bien avertis de l'importance de ce match, et je vois pas la bande à Aldrit et compagnie faire un faux pas contre les jeunes Toulousains.
Et vous, Coraline, vous voyez qui entre ce match d'ancienne finale de Coupe d'Europe?
Je vois Toulouse gagner puisque c'est leur dernier match à la maison, donc je les vois fêter le titre de champion d'Europe avec leur public. Parce qu'il n'y aura pas de... Enfin, je pense qu'ils vont aller en demi-finale directement, donc ça sera vraiment le dernier match à la maison, donc ils vont mettre les bouchées doubles.
Alors les bouchées doubles, justement, là tout de suite on va parler du vrai match, et attention, top départ, Erwan, vous avez 30 secondes pour nous pronostiquer le match de barrage de Pro D2, qui va monter, qui va descendre entre le RC Narbonne et l'US Montauban, c'est dimanche pour le match de Pro D2, c'est parti.
Écoutez, je pense que Narbonne avait vraiment ses chances pour pouvoir monter en Pro D2 directement et doit se mordre les doigts d'avoir si mal fini le match contre Nice. Et à l'inverse, Montauban, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment dans une perte de confiance qui est impressionnante cette saison. Donc moi, j'aurais tendance à dire que Narbonne va gagner, surtout qu'ils jouent à domicile et que le match contre Carcassonne avait été impressionnant, il y avait une ferveur incroyable. Donc voilà, victoire de Narbonne, mais de seulement quelques points.
Très bien, c'est noté. Coraline, 30 secondes, top départ à vous pour le match Narbonne-Montauban.
Malgré une fin de saison très très compliquée pour Montauban, je les vois quand même malgré tout se sauver, un peu à l'arrache, mais se sauver quand même. Et voilà.
Et voilà, très bien, merci beaucoup, c'est noté. Et Julien, vous en avez 20 secondes pour terminer. Voilà.
Écoutez, moi je rejoins un peu l'avis d'Erwan, c'est qu'en fait on a une équipe de Narbonne, donc certes qui va être un peu cette défaite peut quand même peut-être laisser des séquelles, cette débâcle contre Nice. Mais voilà, donc à domicile avec la ferveur, comme justement dit contre Carcassonne, je pense que ça peut faire la différence. Et c'est toujours un match compliqué pour. C'est le match de l'enfer pour l'équipe qui descend. Donc,
eh bien, c'est noté.
Donc courte victoire de Narbonne.
C'est noté
on
là aussi.
Que Julien a dit
on verra. Oui, il est Narbonnais. Oui, voilà, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine, belle semaine.